terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique 167e émission. Nous ne sommes pas, je ne suis pas, devrais-je dire, car Pascal ne m'accompagne pas cette semaine. Il sera de retour la semaine prochaine, ou en tout cas pour la prochaine émission de Divergence numérique. C'est donc en solo aujourd'hui, quoique ce sont nos amis de la revue de presse qui seront à l'honneur tout au long de l'émission pour un entretien avec le développeur de Salut à toi, un outil de communication libre et sans backdoor de la NSA. Après la revue de presse de cette semaine 16, c'est autour de cet outil, pendant une quarantaine de minutes, que Luc et Matenu ont interrogé Gofi, porteur et développeur du projet. Présentation de l'originalité et des fonctionnalités de ce projet décentralisé, multi-interface, micro-blogueur, fichiers, jeux, etc. Pourquoi et comment il est venu au logiciel libre? Quelle licence est utilisée? Pourquoi la GPL? Aspect technique, langage du code, utilisation d'XMPP? Quelle chance de succès, quel risque d'échec? Discussion sur la validité de ce genre d'outils. Facebook, Google seront-ils les flops de demain? Quel contrôle sur ces outils? Gouvernance, contrat social, chiffrage, liberté d'expression et censure. Le cas Diaspora, la charrue avant les bœufs. Et puis un appel à contributeurs pour SAT et son projet économique. Pas de fil musical exceptionnellement pour cette divergence numérique 167. Nous n'oublierons pas de saluer les auditeurs de Radio Escapade et de Radio Larzac qui nous écoutent. Et on démarre tout de suite avec la revue de presse de l'April, présentée par Luc et Nico. Manu est en vacances.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 16, année 2013. Salut Nicolas.
Salut Luc.
Alors on s'est débarrassé de ce salaud de Manu.
De Manu qui est en vacances, en congé, au soleil.
C'est lamentable. Donc 5 articles, donc petite revue de presse.
Petite revue de presse.
Et on va faire court. Donc on parle encore du ministère de la Défense et de Microsoft. De nouveau, on en parlait ces dernières semaines du gouvernement britannique et de son engagement auprès du libre. On parle de GitHub. On va parler également de brevets et de patent trolls. On reviendra sur cette question des DRM dans HTML5. On va expliquer en quoi ça consiste exactement. Donc, premier article.
Le 20-20h, l'armée accro à Microsoft. Un article du 20-20h.
De la rédaction, oui.
De la rédaction. Donc, ça fait suite à la question qui a été posée par l'April sur l'accord Open Bar Microsoft. Et le 20-20h a pu communiquer les documents qui avaient été communiqués à l'April, mais complètement caviardés.
Donc, elle les avait en version...
En version originelle, non censurée, on va dire. Et là, c'est un rapport qui a été publié qui, en fait, critique très fortement Microsoft, que ça fait une solution qui enfermerait...
un rapport interne au ministère,
interne
de,
au ministère de la Défense. Ouais. Qui enfermerait l'armée technologiquement, qui... conduirait à avoir à être complètement dépendant de puissances extérieures, ben en l'occurrence des États-Unis, à se faire contrôler par la NSA. Donc
il y a eu une interview de Jeanne, hein, une de nos permanentes, sur le sujet. Le sujet est passé au 20-20h, donc c'est une émission de télévision.
Il y a eu des articles dans pas mal de journaux. C'est vrai que ça, on en parle beaucoup dans les, donc aussi bien sur les blogs, les forums, à la télé, dans les journaux. C'est quelque chose qui, en période de crise, je pense que ça passe assez mal de voir plusieurs millions d'euros comme ça partir à l'étranger. Et puis surtout là, enfin l'armée déconseille. Enfin, le rapport interne déconseille très fortement Microsoft. Et pourquoi alors y a-t-il eu un accord open bar derrière? C'est la question.
Petit détail amusant, c'est qu'on aime bien parler de la gendarmerie nationale, donc qui est un corps de l'armée et qui est passé au logiciel libre et qui, sur ce coup-là, ne fait pas de commentaires. On les comprend. Leur situation est un petit peu délicate.
Donc, le MAG-IT, le gouvernement britannique nomme un comité des standards ouverts par Cyril Chausson.
Donc on avait expliqué que le gouvernement britannique avait pris des positions fortes et engageantes pour déployer, alors d'abord avoir dans l'interopérabilité, c'est-à-dire avoir des formats informatiques qui soient lisibles, éditables par n'importe quel logiciel, ne pas être enfermé auprès d'un éditeur, et avoir du logiciel libre autant que possible, et donc bah là c'est la mise en œuvre, c'est la mise en pratique.
Voilà, c'est la mise en pratique, donc ça va assez loin, c'est assez intéressant comme concept. Donc ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Standard Hub, qui est un espèce d'énorme, on va dire forum, je sais même pas trop comment le qualifier. En fait, ça ouvre la possibilité aux simples citoyens de s'exprimer aussi sur le sujet, de donner son avis, de donner son ressenti. Et puis donc ils vont travailler sur tous les formats de standardisation, donc avec les formats ouverts, le choix des solutions informatiques dans leur industrie. Ils ont planché aussi, bah, par exemple, le passage d'IPv4 à IPv6, donc ils sont extrêmement transparents sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme ça en France, ça peut être...
Voilà, c'est un bien bel exemple. Nous, ouais. On était très contents de la circulaire Hero, mais on voit avec cette question de ministère de la Défense que la mise en pratique n'est pas évidente. Donc là, on a vraiment un exemple de... Ça va au-delà des principes, hein, c'est mis en place, il y a des structures qui sont là, des gens qui sont responsables, des budgets, et un mouvement vraiment bien sympathique.
Le journal du net, GitHub, une majorité des projets non open source, par Antoine Crochet-Damet.
Donc GitHub, on le rappelle, on avait lu un article là-dessus, c'est une sorte, enfin ça se présente comme un réseau social de développeurs, donc ce sont des outils qu'on connaît dans le monde du développement, qui permettent en gros bah, de gérer les différentes versions de code, d'être à plusieurs à contribuer dessus, mais avec voilà, un emballage facilité, un truc accessible par internet bien entendu, et toute une série d'outils qui rendent l'utilisation de ces outils-là plus sympa, plus facile.
C'est ce qu'on appelle une forge logicielle, donc ça permet de centraliser toute la gestion d'un projet. Là où GitHub a vraiment révolutionné le domaine, c'est qu'ils ont fait rentrer beaucoup de social dedans. Donc il y a beaucoup de liens entre projets, il y a beaucoup de communication, il y a des wikis, des choses comme ça. Et donc là, l'article en question...
Mais à l'origine, c'était un truc vraiment pour le libre.
C'était pour le libre, enfin oui, c'était une alternative à SourceForge, une ancienne forge qui était un peu obsolète. De toute façon, les projets non libres peuvent pas profiter de GitHub gratuitement, il faut payer. Et puis là, donc le constat, c'est qu'il y a un scientifique a regardé les différentes licences qui étaient utilisées par GitHub,
enfin des logiciels. Il a utilisé un outil qui fait ça sur une partie, puisqu'il ne pouvait pas tout télécharger.
Ouais, il pouvait pas tout télécharger.
Et en tout cas, il a analysé, je crois, 28% dans ces eaux-là, hein, en gros à peu près 30% des projets, pour voir quelles étaient les licences. Et il a trouvé que bah, c'était quand même très très flou, voire pas libre du tout.
C'est pas libre ou mal librifié, on va dire. Il y a des problèmes, ils n'ont pas complètement respecté la manière de libérer un logiciel. Les licences sont généralement pas copyleft.
Donc, ouais, ça peut être libre sans être copyleft.
Ça peut être libre sans être copyleft, mais bon, il y a un peu un gros bordel là-dedans. C'est une plateforme où on peut trouver du libre, mais il y a aussi beaucoup de voilà, pas libre dedans.
Un des trucs qui est dit contre GitHub, c'est que GitHub lui-même n'est pas libre. Voilà. Donc une plateforme sans doute très intéressante, mais manifestement de moins en moins dans le libre.
Agfi.com, patent troll et autres dérives, risques importants pour le système des brevets, par Michel Jacquard et Juliette Ancel.
Donc c'est un site suisse, hein, il faut préciser. Je ne sais pas quelle est la législation sur le brevet logiciel en Suisse. Peut-être que chez eux, c'est reconnu. En tout cas, c'est un article qui va expliquer ce qu'on a déjà évoqué hein, sur les dangers des brevets logiciels. Et en revenant sur toute l'actualité depuis 2 ans, de batailles de géants, de procès à n'en plus finir avec des millions et des milliards en jeu. Et il parle des patent trolls, plus voilà. Particulièrement.
Donc les patent trolls, pour rappel, c'est des boîtes qui sont là mais qui ne font rien, sinon racheter du brevet et s'en servir derrière à coup de procès. Pour essayer de rentabiliser leur fonds de commerce.
Voilà, donc c'est juste des juristes et leur fonds de commerce, c'est de faire du contentieux avec essentiellement des PME, même si des grosses boîtes peuvent être touchées. Et bon, voilà, il y a une constatation de l'effet très négatif que ça peut avoir. Le fait qu'aux États-Unis, il y a des solutions qui sont mises en place avec quoi déjà, notamment cette idée d'avoir des entreprises qui s'engagent à ne pas attaquer d'autres entreprises.
Oui, Google aussi avait lancé aussi des idées comme ça. Twitter avait fait ça en disant bon, bah, tous nos brevets à nous, on s'en servira que de manière défensive, on n'ira pas à l'attaque. Donc si vous nous cherchez, on va vous attaquer, mais autrement...
Voilà, il y a d'autres solutions plus juridiques, avec notamment un juge qui dit que le système des brevets est inadapté au monde du logiciel notamment, et qu'il faudrait distinguer en fonction du milieu, là où ça a du sens, là où ça n'en a pas. Enfin, tout ça reste assez compliqué. Bon, et cet article a l'intérêt voilà, de pointer ce gros risque du brevet logiciel.
Voilà,
et
puis là, je pense que la partie intéressante, c'est vraiment qu'ils sont pas contre le brevet sur la partie, on va dire, qui le justifie vraiment. Ils donnent l'exemple du pharmaceutique.
Il y a des gens qui contestent ça, mais
c'est vrai que le pharmaceutique a des coûts d'investissement assez importants en termes de matériel et autres choses, et donc ils aimeraient bien pouvoir avoir leur rentabilité.
La durée de vie d'un médicament est plus longue.
La durée de vie d'un médicament très longue. Donc ils aimeraient bien avoir leur retour sur investissement via un brevet qui leur permettrait de se rentabiliser. Mais ils disent bien, dans le logiciel, il n'y a pas du tout ce coût-là, et donc ça n'a pas d'intérêt. Le coût d'un logiciel en lui-même, c'est négligeable.
Puis la durée de vie du logiciel est plus courte, et en plus ça, autre truc qu'il ne cite pas dans l'article, c'est que le nombre d'acteurs est infiniment plus important. On se doute que dans la recherche pharmaceutique, la sidérurgie ou des trucs d'industrie assez lourde, on a très peu d'acteurs, donc cette notion de brevet, elle est assez facile à manœuvrer. Dans le logiciel libre, on s'est aperçu sur pas mal de procès qu'il y avait plusieurs brevets qui couvraient la même chose, parce qu'il y a des millions de développeurs dans le monde.
Et du coup, pas de contrôle possible, ou très peu, et donc c'est un peu
du coup, ça devient une usine à gaz.
Alors, développé.com, la FSF proteste contre l'ajout d'une API pour la DRM à HTML5 par le W3C et lance une pétition pour l'interdire, par Stéphane Lecalme.
Un article de plus sur ce qu'on a évoqué, je crois, depuis au moins 2 semaines. Le W3C, c'est cet organisme qui est là pour décider des normes qu'on applique pour faire fonctionner Internet. C'est vraiment cette partie infrastructure, le langage HTML, qui est un des langages utilisés pour faire des sites Internet. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours été complètement ouvert, donc libre, et avec cette idée qu'on peut voir le code source des sites sur lesquels on va. C'est quelque chose que le grand public utilise assez peu, mais on peut à tout moment voir comment c'est fait. Donc c'est des principes élémentaires qui ont permis Internet d'être ce qu'il est.
Voilà, et là, donc, le W3C, on suppose, sous la pression des lobbies, a voulu intégrer dans la future version d'HTML5 des DRM, donc des logiciels, des outils de protection des droits, ou de privation des droits, pour être plus exact.
Qui permettent, en fait, de bloquer...
Qui permettent de bloquer la lecture d'une vidéo, qui va permettre de restreindre les droits à telle ou telle plateforme, à un tel nombre de lectures.
Voilà, ce qu'on connaît aujourd'hui dans la vidéo à la demande. Voilà. Et là, ce serait intégré directement dans le HTML, donc directement dans une des infrastructures d'Internet.
Alors après, il donne l'exemple aussi de Netflix, par exemple, qui est un énorme fournisseur de VOD aux États-Unis et qui serait prêt donc à arrêter d'utiliser Silverlight, donc une technologie propriétaire de Microsoft, pour faire du HTML5 théoriquement ouvert, mais uniquement s'il y a les DRM présents à l'intérieur.
Ouais, on n'est pas certain de gagner au changement.
Donc voilà, entre du privateur et du privateur, il y a du privateur.
Voilà, donc c'était une petite revue de presse. Eh bien, Nicolas, merci. Et
à la semaine prochaine, tout le monde.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. Merci à Luc Fievet de l'April pour cette revue de presse. À présent, eh bien, on le retrouve accompagné d'Emmanuel Charpentier. Il recevait dans leur émission Symbiose sur Radio Libertaire, Gofi, le créateur et développeur de Salut à toi, une alternative aux outils de communication qui font les beaux jours aujourd'hui de Facebook et autres Google.
Gofi, bonjour.
Salut, à toi.
Oui, salut à toi, parce que tu vas nous parler de ton projet qui s'appelle Salut à toi, un projet de réseau social, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en fait, c'est un outil de communication de type réseau social, un peu similaire à la Facebook ou à Diaspora, etc.
Alors, on suppose que si tu t'es lancé là-dedans, c'est pas pour faire exactement la même chose ?
Non, alors l'idée c'était de faire un outil qui est libre, c'est-à-dire donc qu'on peut maîtriser et qui est décentralisé, c'est-à-dire que tout le monde peut installer une version chez soi et ces versions peuvent communiquer entre elles, on n'a pas besoin d'un gros truc central comme c'est le cas sur Facebook ou chez Google.
Et oui, chez Facebook ou Google, c'est des data centers monstrueux, des usines à ordinateurs. Là, chacun peut l'installer. On n'est pas obligé d'en avoir un chez soi, on peut se faire héberger par un copain. Mais l'idée, c'est qu'on a comme ça toute une série de petits villages
qui communiquent entre eux. Et donc, on a une meilleure maîtrise de ces données, de ce qu'on écrit.
Ça ressemble aussi à des choses comme Diaspora, Movim, peut-être ?
Oui, ça, c'est similaire à ces projets-là. Maintenant, c'est pas tout à fait de la même manière, mais ça se rapproche. Ouais.
Alors, pour le coup, quelles sont les spécificités de Salut à toi ?
Déjà, c'est multi-interface. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un site web. Ça marche aussi avec une interface de bureau, ça marche, alors ça c'est pour ceux qui sont un peu plus geek entre guillemets, ça marche aussi en ligne de commande ou avec une interface texte. Et il y a tout à fait possibilité de faire des interfaces qui sont bien adaptées, par exemple à des petits écrans pour des téléphones, ou on peut envisager des interfaces pour les handicapés, avec par exemple plus de son pour les aveugles ou ce genre de choses, quoi.
Et donc, comme dans tous les réseaux sociaux ou outils de communication, tu peux partager, envoyer des statuts, échanger des images, peut-être même du son, des vidéos.
Voilà, alors tu peux faire tout ça. Tu peux faire du microblogage, donc un peu ce qui se fait sur Twitter ou sur les murs de Facebook. Tu peux envoyer des fichiers. Tu peux faire de la discussion. Donc c'est assez puissant, même par rapport à ce qui se fait à côté. C'est pas mal poussé au niveau de la discussion. Donc tu peux faire des discussions simples ou des discussions de groupe. T'as pas mal de possibilités de ce côté-là. Et après, il y a aussi d'autres choses du type des jeux où on peut s'en servir en fait pour des tas de choses au fur et à mesure, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe avec toutes ces données ? Parce que certes décentralisé, mais là, si moi je mets mes photos de vacances, l'agence. Qu'est-ce qui m'assure que ça va pas tomber dans une boîte de pub qui va les réutiliser ?
Alors, tu as deux possibilités. Alors, déjà, si tu veux vraiment avoir une grosse maîtrise au niveau des données, tu peux installer ça chez toi. Et du coup, tu as ton propre serveur et les données vont aller uniquement aux gens à qui tu les envoies. Donc, c'est toi qui as une bonne maîtrise des choses. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que ça demande un tout petit peu un côté technique pour pouvoir installer ça chez soi. La deuxième solution, c'est d'avoir des serveurs qui sont gérés par soit des associations, des écoles ou alors quelqu'un de la famille ou un ami qui s'y connaît un petit peu plus, qui seraient des petits serveurs. Genre pour une dizaine de personnes. Et du coup, tu gardes quand même une maîtrise vu que c'est beaucoup plus proche de toi, c'est pas géré par une grosse entreprise multinationale et t'as beaucoup moins de risques que les données soient utilisées pour être revendues à des boîtes pour de la pub ou t'as aussi les problèmes de censure. Enfin, il y a plus de risques de censure comme tu peux avoir chez Facebook. Il y a eu quelques cas célèbres comme l'origine du monde, un tableau qui a été censuré, etc. quoi.
Donc, ça, c'est le point vraiment important et c'est une chose sur laquelle tu insistes, c'est que les gros réseaux sociaux, on cite Facebook, mais Google, c'est la même chose, etc. Ce sont finalement des agences de pub. Elles sont là pour faire du commerce
tout à fait,
avec ouais. des informations personnelles. Et donc, on est en fait finalement une marchandise dans un système qui est là pour faire de l'argent avec nos données, qui fournit un service en échange, mais on reste une marchandise. Et donc, toi, ta motivation, elle est politique, c'est effectivement d'offrir une alternative dans un truc où on est enfin du pouvoir sur ce truc-là. Quoi.
Voilà, l'idée, c'est vraiment de retrouver la maîtrise de ces communications et c'est de ne pas faire ça dans un but purement commercial, comme on le voit avec ces grandes entreprises. Donc oui, c'est profond politique dans le sens que il faut vraiment récupérer la maîtrise, que les données c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est enfin les communications sont au centre de tout, les ordinateurs sont au centre de tout et qu'on peut plus se permettre de laisser nos messages intimes, nos photos intimes ou pas d'ailleurs entre les mains d'entreprises qui font du fric avec quoi.
Alors aujourd'hui, Salut à toi, c'est un projet, c'est pas fini encore. C'est en travaux, on va dire.
Oui.
C'est bien avancé quand même. Hein.
Oui, c'est bien avancé, mais c'est pas encore tout à fait prêt pour le grand public.
Alors, comment tu vois Salut à toi ? Pour toi, quelles sont les échéances ? Quelles sont les ambitions que tu as pour ce projet ?
Alors, dans l'immédiat, et ça, j'en suis pas très loin, c'est faire déjà quelque chose d'utilisable pour le grand public. Ce que j'entends par là, c'est facile à installer, à utiliser, suffisamment sécurisé pour qu'on puisse pas savoir ce qui passe dans les tuyaux. Et donc, voilà, ça, c'est la première ambition. Après, sur le plus long terme, j'aimerais beaucoup monter une coopérative, enfin, quelque chose en autogestion, parce que je m'intéresse beaucoup à l'autogestion, autour du projet, et donc, tout en gardant toujours le projet gratuit, libre et accessible à tout le monde, mais avec dans l'idée donc de pouvoir faire vivre peut-être 3 ou 4 personnes autour du projet.
Donc Goffy, tu nous as expliqué que tu avais un projet sur lequel tu travailles depuis un bon moment déjà maintenant, il s'appelle Salut à toi, qui est une forme de réseau social, un outil de communication, un oui. terme que tu préfères.
Oui, c'est vrai que j'aime pas trop le terme réseau social, ouais, pour différentes raisons, mais notamment c'est un terme qui veut pas dire grand-chose à mon sens, plus marketing qu'autre chose. Quoi.
En tout cas, ce que tu fais, c'est Salut à toi, c'est du logiciel libre.
Oui, tout à fait.
Donc pourquoi cet attachement ? Comment t'es venu au logiciel libre et pourquoi ça te semble important de faire ce projet dans ce cadre-là ?
Le logiciel libre, comment j'y suis venu assez naturellement en fait. Je suis passionné d'informatique depuis que je suis tout petit. Dès qu'on en fait de manière un tout petit peu sérieuse, on vient naturellement à entendre parler de Linux, après de GNU, donc GNU Linux et voilà, et du logiciel libre. Et c'est comme ça qu'on apprend énormément de choses au niveau de l'informatique, donc j'y suis venu assez naturellement.
Et c'est quoi la licence exactement que tu as pris, que tu as choisi ?
Alors la licence, j'ai choisi une licence AGPL, c'est-à-dire une licence copyleft, c'est-à-dire qui oblige les gens qui veulent utiliser le projet à fournir les modifications et les versions dérivées du projet.
Donc ils redistribuent ce qu'ils ont eux-mêmes créé à partir.
Voilà, tout à fait, ils redistribuent ce qu'ils ont eux-mêmes créé.
Alors l'AGPL, c'est bien gentil, mais j'entends comme une allitération, un A qui se promène, comment tu l'écris ?
Ouais, alors le A, c'est pour...
Tu l'écris AGPL, hein ? AGPL. Là, c'est parce que l'AGPL, voilà, c'est ce que c'est.
C'est la AGPL, si tu veux. Quoi.
Là, si vous n'êtes pas encore perdu, bravo.
Oui, donc en gros, le A, c'est pour Affero, et ça indique qu'il faut fournir les sources, les modifications qu'on fait, y compris quand on fait le logiciel à travers un réseau, parce que avec la GPL, avant, il y avait le souci que si on faisait un serveur web et qu'on faisait des modifications, il n'y avait rien qui obligeait à donner ces modifications.
C'est uniquement le logiciel qu'on redistribuait.
Voilà, c'est ouais. uniquement...
Évidemment, quand on a un logiciel qui tourne sur un serveur et que les gens en bénéficient au travers d'Internet, on n'a pas redistribué le logiciel, on a distribué que le service.
Voilà, exactement. Donc là, on a vraiment l'obligation de fournir le serveur.
Voilà, y compris quand on ne distribue pas le logiciel.
Voilà, tout à fait.
Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à ça, finalement ?
Qu'est-ce qui m'a amené au logiciel libre.
Et à la GPL en particulier.
Déjà pour des raisons de sécurité, c'est essentiel parce que ça permet de vérifier ce que fait le logiciel, de savoir exactement ce qu'on fait avec les données. Donc à partir de là, c'est déjà indispensable. Ensuite, ça permet de comprendre. Donc il y a aussi ça permet de satisfaire la curiosité de ceux qui sont un peu techniques et qui ont envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça permet de faire des modifications. Il y a peut-être des tas de choses auxquelles j'ai pas pensé, que des gens auront envie de faire, ou faire des versions spécifiques. Ça peut être aussi très utile s'il y a des gens qui veulent faire un réseau dédié à certaines choses et qui voient une base en salut à toi, mais pas exactement comme ils voudraient. Le fait que ce soit libre, ça va leur permettre de vraiment d'adapter ça exactement comme ils veulent, quoi.
C'est super, hein. Donc Luc, tu vas pouvoir rajouter un jeu. J'ai vu qu'il y avait un jeu de tarot, tu vas pouvoir mettre une belote dessus.
Ouais, je vais d'abord apprendre à coder et ensuite je vais contribuer.
Et coder en quoi d'ailleurs, hein?
Alors, coder, c'est coder en Python, donc majoritairement en Python. Bon, j'ai parlé un petit peu de l'architecture parce que c'est nécessaire pour comprendre. En gros, c'est une architecture sur daemon front-end. Ça veut dire qu'il y a tout le cœur du logiciel qui est séparé des interfaces, donc qui est dans un daemon. Donc ça, c'est fait en Python. Et okay,
un truc aux enfers, c'est ça,
hein? Oui, les gens religieux, n'écoutez pas, c'est mal venu.
Donc les interfaces, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être web, de bureau, etc., peuvent être faites dans à peu près n'importe quel langage. Donc la plupart sont faites toujours en Python, mais il y en a une là qui a été commencée avec Qt et donc qui a été faite dans le langage de prédilection de Qt, qui est le C++.
Donc Luc, va falloir que tu t'y mettes. Hein.
Oui, j'ai tout compris à ce que vous avez raconté.
Et décentraliser tout ça, hein, je vous rappelle. Donc tu peux mettre ton instance sur ton poste et discuter avec la mienne sur un autre.
Mais alors moi j'y connais rien, je suis pas codeur, mais j'ai cru comprendre que Python c'était pas tellement un truc pour faire du web, dans l'internet.
À la base, c'est utilisé pour les interfaces natives du genre du bureau, etc. Mais effectivement, Python est aussi utilisé côté interface web, y compris dans la partie client, donc ce qui tourne dans le navigateur. Parce que j'utilise en fait Pyjama.
Oui, c'est pas mal, c'est très évocateur tout de suite.
C'est pas mal comme nom. Ouais. Qui a un port des Google Web Toolkits en Python, et qui permet donc de compiler le Python en JavaScript.
Donc JavaScript, pour ceux qui connaissent, c'est le petit truc qui est embarqué, le langage qui est embarqué dans les navigateurs.
Voilà, tout à fait.
En gros, tu prends un langage qui est plutôt fait pour faire des applications en dur sur les postes de travail, et avec une conversion pour faire du web.
Voilà, c'est un gros intérêt, parce que Python est un langage extrêmement agréable et puissant à utiliser, et donc ça me permet déjà de ne pas avoir à changer de contexte en permanence entre JavaScript et Python, enfin, garder mes idées en place, et donc de bien profiter de la puissance de Python.
Ouais, je sais que moi je le recommande pour apprendre à programmer. Donc Luc, tu vois, tu as ta chance avec cet outil là parce que c'est bien pensé et que c'est assez clair, concis et même propre. Donc là, pour le coup, tu héberges tout ça sur un GitHub peut-être?
Non, j'utilise Mercurial.
Mercurial, ouais. D'accord.
Je ne suis pas un grand copain avec GitHub.
Pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas, c'est le stockage en fait, de ce code source.
Non, mais il faut qu'on arrête de parler technique.
N'est-ce pas?
Alors j'ai cru comprendre que tu utilisais XMPP. Donc...
Ah. Oui, alors si tu trouves les initiales, Luc, vraiment, tu es trop fort.
Alors non, mais bon, on ne va pas s'éterniser sur le sujet non plus. XMPP, c'est un petit peu connu parce que c'est utilisé notamment par Gtalk, le truc de chat de Google, c'est utilisé par Facebook également. Mais c'est pas juste un machin qui fait du chat, ça fait plein d'autres trucs.
Voilà, alors le X de XMPP, il veut dire extensible. En fait, donc c'est un protocole de communication donc standard, décentralisé, fédéré. Et donc le extensible, ça veut dire que on peut rajouter des fonctionnalités. Donc par exemple, typiquement, ce qui est utilisé dans Salut à toi, le microblogage, n'a pas été pensé au début parce que c'était pas à la mode. Hein, c'était pas
microblogage, hein, c'est des trucs de type Twitter. Quoi.
Voilà, tout à fait. Twitter, ouais. Ou Identica pour la version libre. Donc on a pu faire des extensions au protocole pour gérer ce genre de choses. Enfin, c'est en train d'être actuellement standardisé.
Donc tu mets en œuvre vraiment les dernières fonctionnalités d'XMPP dans Salut à toi.
Voilà, je fais partie des quelques projets XMPP qui sont, enfin en tout cas, qui vont dans ce sens social, entre guillemets. Après, il y en a d'autres du type Movim ou Japix qui sont aussi là-dedans, BuddyCloud aussi. Et voilà, bon, après, il y a d'autres projets qui font d'autres choses pas forcément liées au microblogage, etc., quoi.
Oui, il faut avouer qu'XMPP, moi qui n'utilise pas, hein, donc je ne suis pas dedans, mais j'en entends beaucoup parler, ça a l'air d'être pas mal utilisé sur le web, bonne technologie bien standardisée, donc...
Voilà, le gros avantage d'être standard, d'avoir 10 ans d'âge, donc une certaine maturité, d'être déjà bien en place, bien utilisé, on a cité tout à l'heure Google, Facebook, il y a aussi IBM qui s'en sert énormément dans les entreprises. Donc voilà, c'est une technologie qui est bien mature, qui est bien répandue, donc qui avait un intérêt à être mis en place. Et donc, il ne sert pas qu'à la messagerie, comme on vient de le dire. Et aussi, un des gros avantages d'utiliser XMPP, c'est que on peut communiquer directement avec tous ces gens qui l'utilisent déjà. Donc on n'est pas perdu tout seul dans notre réseau. Quoi.
Voilà, donc même en étant sur Salut à toi, on va pouvoir rester en communication avec des gens qui seront par exemple sur Gtalk.
Bah tout à fait. Des comme ça, moi je discute tous les jours avec ma sœur qui est sur Gtalk.
Donc voilà, une belle démonstration de l'intérêt d'utiliser des standards ouverts, normalisés, etc.
Divergence numérique 167e émission. Luc Fievet et Emmanuel Charpentier s'entretiennent avec Gofi, créateur de Salut à toi, un des projets libres qui se veut une alternative aux réseaux sociaux commerciaux.
On a parlé technique pour essayer d'assommer un maximum de gens. Et tu as évoqué tous les réseaux sociaux libres, tous les autres projets qui existent. Il y en a pléthore, il y en a des tonnes. Mm-hmm. Il y en a un qui est très connu, qui est Diaspora, mais il y en a plein d'autres. La constatation qu'on a par rapport à tout ça, c'est que le réseau social, c'est une idée que ce qui fait le réseau social, c'est les gens qui sont dedans et c'est pas le logiciel. Mm-hmm. Et on voit bien que Facebook regroupe une quantité monstrueuse de gens.
Un milliard, monsieur, un milliard.
Au moins un milliard de comptes. Mais en tout cas, on peut pas nier que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Twitter, voilà, regroupe énormément de gens sur un service assez différent. Google Plus, en dépit.
Décoller,
ils ont du mal à décoller, alors que c'est quand même Google et qu'ils ont des moyens énormes. Et donc, face à ça, on a au moins une bonne dizaine de projets libres qui veulent faire des trucs à peu près équivalents. Et du coup, il y a un peu cette idée, c'est est-ce que c'est pas complètement désespéré comme démarche ?
Désespéré, peut-être. Enfin, je pense que ça vaut le coup, quoi qu'il en soit, parce que c'est vraiment important pour notre génération de faire quelque chose, ne serait-ce que pour les générations suivantes. Est-ce que c'est faisable ou pas ? Là, ce dont on t'a parlé, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau, dans le jargon. En gros, l'effet réseau, c'est quand t'as beaucoup de monde sur un réseau, typiquement Facebook, c'est très très difficile d'en partir. Bah parce que voilà, parce qu'on n'a pas envie de quitter les amis, parce que on sait qu'il y a des défauts, mais on veut pas perdre le contact avec ceux qu'on a, quoi. Et du coup, dans l'autre sens, c'est très difficile de lancer quelque chose parce qu'il faut qu'on atteigne le point où l'effet réseau marche en notre faveur, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de monde pour que ça marche en notre faveur. Le choix justement d'avoir utilisé ce fameux protocole XMPP permet justement d'avoir déjà des personnes dedans, donc déjà un début d'effet réseau.
Par cette fameuse compatibilité entre Salut à toi et des systèmes
extérieurs. Tout à fait. Bah voilà, il y a plus ou moins un début. Enfin, on part pas de zéro, quoi. On part vraiment pas d'en bas, quoi. Après, pourquoi les gens viendraient plus dessus? Bah, je pense beaucoup par conviction, tout d'abord. Moi, étant moi-même politisé, je pense que le milieu militant est certainement un des premiers intéressés par ce genre de choses, et qu'après ça, par effet boule de neige, ça va venir tout seul, quoi.
Ceci dit, moi j'ai cru me laisser entendre dire qu'il y avait eu d'autres effets réseau qui s'étaient cassés la gueule. Donc je pense à MSN à une époque dont on ne faisait que jurer sur sa prédominance.
C'était les rois du monde, tous les jeunes étaient là-dessus, ils passaient tout leur temps libre, et ça s'est cassé la gueule en quoi, 2-3 ans, hein.
Oui, il y a eu des Orkut qui étaient un réseau social qui a été racheté par Google.
Bien avant,
n'est-ce pas, MySpace, qui a beaucoup fait parler à une époque, et ils se sont cassés la gueule, et vite. Et donc Facebook, y a pas de raison que ça puisse pas arriver du jour au lendemain. Après tout, maintenant que les parents sont venus sur le réseau social et sont connectés avec les enfants, à mon avis...
J'ai vu un chiffre récemment d'un article qui disait que, je sais plus, quelque chose comme 30 ou 35% des Français sur Facebook avaient envisagé à un moment ou un autre de fermer leur compte. Et après ça, effectivement...
beaucoup, ouais. qui veulent partir, mais qui ont du mal, quoi. Ouais.
Et après ça, il y a ce phénomène aussi, effectivement, Facebook ou Google, eux, ont des visées hégémonistes, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement que tout le monde soit chez eux, c'est pas nécessairement ton objectif.
Comment ça? Tu veux pas un milliard de personnes sur ton réseau? Non, allez.
Tu veux pas devenir le maître du monde, c'est ça?
Oui, non, pas vraiment. Par contre, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'il y ait, que les gens... Ben déjà, j'aimerais pas qu'il y ait un grand truc avec un milliard de personnes dessus, que chacun puisse faire son propre serveur, ou qu'il y ait des serveurs d'une dizaine ou centaine tout au plus de personnes. Et après, de toute façon, il n'y a pas question d'hégémonie, dans le sens que c'est libre, et c'est pas moi qui aurai le contrôle sur ce genre de choses, et j'en ai de toute façon ni l'envie et ni les moyens, et je mets volontairement tout pour qu'il n'y ait pas les moyens. Donc déjà, parce que c'est libre, c'est-à-dire que si un jour le projet part un peu en crabe, n'importe qui pourra le reprendre et le continuer. Il y a un contrat social qui est associé au projet. Dans ce contrat social, j'explique les grandes lignes du projet. Donc on peut lire, hein, sur le site sat.gofi.org. Donc ce contrat social explique qu'on refuse la censure, qu'on veut utiliser du logiciel libre, qu'on veut décentraliser, qu'on veut aider ceux qui n'ont pas forcément les compétences techniques pour comprendre comment ça fonctionne, etc. etc. quoi.
Tu t'es inspiré du contrat social du système d'exploitation Debian?
Voilà, il y a Debian, il y a Gentoo qui fait ça, et puis bon, un peu plus loin dans l'histoire, il y a eu Rousseau, il y a eu...
Ah oui, ça c'est du sacré système d'exploitation.
Il y en a eu quelques-uns, quoi.
Alors pour revenir à cette question d'outils de communication, de, pour ne pas dire réseau social, qu'est-ce qui pour toi fait la spécificité de ce genre d'outils? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à Internet sans le réseau social, sans l'outil de communication? Et qu'est-ce qui, c'est quoi la magie du truc?
Alors pour moi, ce qui a marché surtout chez Facebook, c'est parce qu'au final, tout ce qui a existé dans Facebook, ça existait auparavant. Hein. Les fichiers, on se les partageait avec FTP, il y avait les mails, il y avait ICQ qui était très populaire à l'époque.
ICQ, c'était un truc de messagerie.
C'était un truc de messagerie. Ouais, ça fait, bah, ça doit encore exister, mais ça doit être vraiment.
Oui, mais encore un réseau, encore un effet réseau qui s'est cassé la gueule, je crois.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns. Dans la récente histoire informatique, il y en a eu quelques-uns. Donc voilà, en fait, je pense que ce qui a fait le succès, c'est deux choses. D'une, c'était regroupé et relativement simplifié. Et de deux, bah après, voilà, ce fameux effet réseau, j'ai mes amis qui sont dessus, pourquoi pas moi, quoi.
Ceci dit, moi, je sais que j'utilise encore beaucoup plus mes outils que ce genre de choses-là. J'ai comme l'impression que c'est surtout le fait d'avoir un réseau de contacts, hein. De mettre les contacts, les gens que tu connais, de pouvoir les suivre, de pouvoir facilement leur envoyer un mail ou les déclencher un chat. Et donc ça, moi, je l'ai sous d'autres formes.
Mmh,
est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que aller sur Salut à toi, même Facebook, hein, et je connais bien...
Je vais raconter ma vie un petit peu parce que ça intéresse tout le monde. C'est très important. Je faisais une intervention dans une université auprès d'étudiants de première année en art plastique.
Mmh.
Et il y avait une étudiante plus, disons, avancée, etc., que les autres. Et je leur parle de Facebook. Il y a des conditions générales de Facebook qui disent que quand on met quelque chose dans Facebook, notamment une image, Facebook a le droit d'exploitation. Elle ne le retire pas à l'auteur, mais elle s'octroie le droit d'utiliser l'image qui a été mise par un utilisateur. Et donc, en gros, on cède des droits d'exploitation à Facebook. Pour les provoquer un peu, je leur avais dit, est-ce que vous voulez me céder vos droits d'exploitation de ce que vous faites? Parce que, voilà, peut-être que dans 10 ans, ça vaudra de l'argent. Moi, je veux bien que vous me filiez ça. Ils m'ont dit, bah non. J'ai dit, mais pourquoi vous le donnez à Facebook? Et cette fille-là a dit, bah... Facebook, en échange, me donne de la notoriété, me permet de me faire connaître.
Mmh. Ouais, cette histoire de notoriété, ça m'amuse un peu parce que j'ai quelques amis qui sont artistes et alors j'en ai dans le théâtre, j'en ai dans les art plastique, sculpture et tout ça. Et effectivement, c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, il y a du monde sur Facebook, c'est parfait pour la promotion. Bon, c'est vrai qu'après, on est beaucoup dans un monde aussi où la promotion, ça passe avant tout. Mais au final, à chaque fois, je pose la question, et concrètement, ça t'a donné quoi? Enfin, est-ce que ça t'a permis de rentrer, de faire des expositions? Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de monde et tout ça? Et à chaque fois, on m'a répondu non. Donc oui, ça sert peut-être à ce qu'il y ait du monde qui voit les choses, mais après, est-ce que c'est vraiment efficace? Moi, à mon avis, le plus efficace, c'est encore les bonnes méthodes traditionnelles qui sont aller discuter avec les gens en vrai et vraiment se faire un véritable réseau physique d'amis.
Et donc, ces amis qui se mettent sur, qui recherchent de la notoriété, ils espèrent gagner quelque chose. C'est un peu comme la Star Academy. Ils veulent sortir du lot, mais sur 1 milliard de personnes, ils vont peut-être avoir du mal, ou 1 milliard de comptes. Hein.
Bah, il me semble quand même que dans un réseau social comme Facebook, on arrive effectivement à mieux diffuser ces informations que si on a un blog dans un coin, si personne n'a souscrit à ces flux RSS ou des choses comme ça.
Ouais, mais c'est un peu paradoxal dans un sens parce que Facebook, c'est un réseau qui est fermé. Donc bon, je crois qu'ils ont des pages publiques quand même, mais. Si t'es pas dessus, t'es pas tant courant que ça, oui. Alors que par définition, un blog bah
c'est terrible l'effet réseau. Moi, j'ai croisé des gens qui ne sont que sur Facebook, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas Internet. Ils ont pas de mail, ils écrivent jamais de mail, ils en reçoivent pas. C'est pas la peine d'essayer de les connecter par ça.
C'est vrai que j'ai perdu pas mal de contacts, hein, justement, parce que bon, j'ai un compte Facebook que j'utilise pas. Enfin, en fait, que j'ai utilisé un tout petit peu au début et que j'ai arrêté. Je m'en sers juste pour suivre un peu l'évolution du projet, quoi. Et du coup, je suis pas du tout sur Facebook. Et enfin, c'est-à-dire que je m'y connecte pas et je me rends compte que je perds de plus en plus le contact avec, bah avec les amis qui sont un peu loin, parce que j'envoie des mails, mais ça répond très rarement, parce que ça prend au moins 5 minutes quand même d'écrire un mail, et voilà, c'est plus compliqué que juste faire POC sur Facebook, quoi.
Et donc, quand tu regardes Google+, par exemple, hein, Google+, ça te paraît bien, ça te paraît sympa, technologiquement avancé, ils ont des conditions d'usage sympathiques?
Alors, Google+, ça me paraît techniquement, Google, faut reconnaître qu'au niveau technique, ils sont très forts. Oui, c'est très, très bien fait de ce côté-là, c'est pratique, c'est joli, c'est intuitif, etc. Maintenant, c'est Google, donc on sait ce qu'ils veulent, hein. Ce qu'ils veulent, c'est vos données, ce qu'ils veulent, c'est vendre leur pub, ce qu'ils veulent, c'est faire du pognon, quoi. C'est pas parce que c'est joli, bien enrobé, et que c'est un beau gâteau qu'il faut en prendre, quoi. Il y a toujours le problème que ça reste centralisé, ça reste une entreprise privée, ça reste des données qu'on ne maîtrise plus, enfin ça reste tout.
Il y a plein d'entreprises privées dans le libre, tu vois, enfin ça c'est quelque chose qui moi me semble une force dans le libre, c'est qu'il n'y a pas de fermé, c'est pas fermé au business, tu vois.
Alors attention, pour moi, le libre c'est une, enfin en tout cas en ce qui concerne le réseau social, le libre c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un projet est libre que les données seront forcément bien traitées, parce que oui, on peut l'installer chez nous, et si on l'installe chez nous, on en aura la maîtrise, mais si on a un logiciel libre mais qui est utilisé sur un serveur qu'on ne maîtrise pas et en qui on n'a pas confiance, ça revient exactement au même. C'est pas parce que c'est libre, moi je veux dire, ça me ferait une belle jambe que tout le monde utilise XMPP si c'est pour rester sur des serveurs maîtrisés par Google, par Facebook ou je sais quelle nouvelle entreprise qui,
ouais, donc
qui
va le libre ça n'est qu'une condition,
voilà, nécessaire mais pas suffisante. Clairement.
Et qu'est-ce que tu penses carrément de la constitution des bases de données pour Big Brother, pour les autorités, pour des groupes au-dessus des multinationales, les États par exemple, qui peuvent avoir des informations de ouf sur les individus? Est-ce que tu vas pas les aider?
Contrairement, enfin je suis plutôt à l'opposé de leurs intérêts, dans le sens que bah, la base de données elle est plutôt faite de notre côté. Après, il y a toujours les informations publiques qui peuvent accéder, et c'est vrai qu'on c'est difficile d'imaginer tout ce qu'on peut faire. Et à ce sujet-là, justement, avec le projet, j'essaye, d'ailleurs j'aimerais lancer un débat sur Paris à ce sujet, de réfléchir vraiment à est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce que ce qu'on fait va pas à l'opposé de ce qu'on veut, est-ce que c'est vraiment utile, enfin voilà, parce que pour moi ces outils ils sont quand même une, enfin ils sont pas neutres, contrairement à ce qu'on entend souvent, la technologie n'a absolument rien de neutre. Typiquement dans Facebook par exemple, les likes etc, c'est
les likes, c'est le petit pouce
voilà,
vers le haut
pour dire qu'on aime quelque chose. Ça sert clairement aux régies de publicité. D'ailleurs il y a eu des articles assez récemment où on arrivait à déduire des choses incroyables, l'orientation sexuelle, l'opinion politique etc,
juste à partir des trucs que t'as aimé et que t'as marqué comme
tout à fait, juste à partir des likes ils arrivaient enfin ils arrivent à faire des déductions assez incroyables, quoi. Donc voilà, ces outils là c'est enfin c'est bien beau de les avoir en ligne, c'est déjà une chose importante, mais enfin, est-ce qu'on va vraiment dans le bon sens? C'est des choses qui sont à débattre, et je pense que c'est pas anodin de développer ce genre de projet, d'écrire ce genre de projet, et qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait et à se demander est-ce qu'on est vraiment en train de libérer les utilisateurs, ou est-ce qu'au contraire on est en train de les rendre plus esclaves et plus dépendants de la technologie.
Divergence numérique, 167e émission. Luc Fievet et Emmanuel Charpentier de l'April reçoivent Gofi, le créateur d'une alternative aux réseaux sociaux commerciaux nommée Salut à toi.
Donc Gofi, tu nous as présenté ce qu'était Salut à toi, on a évoqué les autres réseaux sociaux, les autres outils de communication, pour utiliser un terme que tu préfères, une conclusion temporaire, c'est que finalement il y avait derrière une question de gouvernance, c'est-à-dire que effectivement le logiciel peut être libre, Google, Facebook utilisent du logiciel libre à tour de bras pour faire tourner leur serveur.
Oui, ça très très à la mode le logiciel libre, hein, Twitter aussi.
Ça ne les empêche pas d'enfermer leurs utilisateurs, de faire du business éhonté avec leurs données, d'ouvrir des données qui étaient privées, de les rendre publiques, ça c'est une grande spécialité de Facebook. Donc ça pose vraiment cette question du contrôle. Donc tu disais que Salut à toi, c'était quelque chose d'assez, enfin par module, hein, on peut les installer, donc c'est quand même relativement technique, c'est pas nécessairement à la portée de tout le monde, donc c'est pas chacun le sien, mais on peut avoir comme ça des petits villages. Donc du coup, cette question de la gouvernance, elle se pose également sur un réseau social de ce type-là, c'est comment on fait si moi je fais appel à mon ami Manu par exemple pour qu'il héberge mes données, si un jour Manu se met à péter les plombs, qu'est-ce que je fais? Comment on gère tout ça, quoi?
Effectivement, cette histoire de gouvernance, elle est très importante. Alors après, il y a plusieurs choses qui sont faites. Alors, il y a deux choses à voir. Il y a la gouvernance du projet en lui-même, donc de Salut à toi. Et
ça, a priori, c'est le contrat social dont tu nous as
parlé
tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Hein. Et la gouvernance de ceux qui tiennent les serveurs. Oui, donc il y a le côté légal avec, enfin légal entre guillemets, avec la licence, avec le contrat social qui permet de modifier au niveau du projet. Après, il y a des réponses techniques pour les problèmes de gouvernance au niveau de l'administration, etc. Il y a le chiffrage de bout en bout. Déjà, XMPP de base est chiffré entre le serveur et le client, c'est-à-dire que les messages qui passent sur Internet ne sont a priori pas lisibles. Par contre, ils se passent en clair au niveau du serveur. Donc effectivement, s'il y a quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, ça pose problème. Alors après, il y a une solution technique qui s'appelle le chiffrage de bout en bout, c'est-à-dire on va masquer les messages pour que ce soit lisible uniquement par ton destinataire. Donc on va faire en sorte que la personne qui tient le serveur ne puisse pas savoir ce que tu écris. Par contre, elle pourra quand même savoir à qui tu écris, ce qui est quand même déjà une information importante, quoi. Après,
c'est des choses que t'as implémenté aujourd'hui dans Salut à toi?
Alors non, ça, le chiffrage de bout en bout, il y a chiffrage entre le client et le serveur qui est de base dans XMPP. Chiffrage de bout en bout est dans ma liste de priorités, elle est même placer assez haut de ce côté-là. Et je n'ouvrirai pas, enfin, je ne considérerai pas la version comme prête pour le grand public tant que le chiffrage de bout en bout ne sera pas disponible.
Alors, oui, il y a un truc qui va peut-être faire un petit peu écho à l'actualité. Aujourd'hui, c'est assez à la mode, hein, et notamment avec les politiques qui ont beaucoup de mal avec Internet et ce genre de choses. C'est dire, ouais, bon, alors d'accord, mais alors si l'amicale des néo-nazis monte son serveur salut à toi.
Ça, c'est déjà, ils sont très forts, hein, ils maîtrisent bien la techno, c'est bien.
Mais du coup, voilà, ça, c'est la porte ouverte
à toutes les fenêtres.
Bon, ça me fait penser à un article là, qui est passé la semaine dernière de Marlar, qui est une gameuse féministe, et qui citait un cas et finalement qui est intéressant, hein, qui se retrouve face à des gamers qui sont super sexistes, qui l'invectivent, lui demandent de montrer ses seins, enfin des trucs super lourdingues, et quand elle leur met le nez dedans en disant que c'est quand même des connards, ils disent mais écoute, nous on a toujours fonctionné comme ça, si t'es pas content tu te casses, et en gros, en résumé, on a le droit d'être des connards si on a envie, on était des connards avant, t'arrives, on continue à être des connards et puis c'est comme ça.
Et donc là c'est super, t'installes un salut à toi et voilà. Tu fais ton petit truc de connard néo-nazi, voilà. Poète pédophile.
Et quelque part l'argument se tient, enfin je veux dire, tu peux dire bah ok,
ouais,
oui.
C'est une question qui est très très... compliqué. Enfin, je pense que ça se résout pas comme ça. J'avais discuté un peu avec, j'avais rencontré une des personnes de l'équipe de Changebook. C'est une espèce de réseau qui m'ont entendu parler à une époque. Et eux, ils me disaient, bah nous, on interdit les fachos sur notre réseau. Moi, j'avoue que je suis pour la liberté d'expression, ça c'est clair et net. Après, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut interdire ou pas. Je pense que on peut pas répondre simplement à ce genre de choses. Il y a Stallman, RMS, qui a fait un texte là-dessus en parlant du logiciel libre.
Et donc, c'est le père des logiciels libres, hein, j'appelle.
Voilà, tout à fait. Et qui a fait un texte, alors je sais plus, il faut chercher un peu l'adresse, il doit se retrouver assez facilement sur Internet, où il disait, ouais, mais est-ce que les logiciels, on peut pas les interdire pour la torture ou pour les armes ou pour ce genre de choses. Et il expliquait donc dans son texte que on peut glisser très facilement dans ce genre de choses parce que ce qui va paraître bon ou mal pour quelqu'un ne va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre et qu'enfin, on peut très vite dériver dans ce genre de choses. Donc voilà, donc déjà, au niveau éthique et philosophique, la question est quand même pas simple à répondre. Et après, au niveau technique, de toute façon, moi, à partir du moment où mon logiciel est libre, même si je voulais interdire, par exemple, j'aurais un truc qui cherche tous les mots pas bien en disant non, comme l'ont fait d'ailleurs certains réseaux propriétaires par le passé. Même si je voulais le faire, il suffirait de prendre le logiciel et de virer ça et puis voilà quoi.
Mais comment tu vivrais si outre des pédonazis utilisaient ton outil, mais je sais pas, des jeunes sont sur des nœuds qui ont été hébergés, donc qui hébergent ton code, et puis il y a ce qu'on appellerait du bullying, des gamins qui s'embêtent les uns les autres et ça entraîne un suicide, parce qu'il y a eu des histoires, des rumeurs, des vraies données ou des fausses données qui ont circulé sur une gamine et la gamine l'a mal pris, elle se suicide. Comment tu vivrais ce genre de choses?
Je le vivrais très mal déjà au niveau du drame. Maintenant, malheureusement, je peux pas vraiment faire grand chose pour ce genre de choses. Est-ce que les fabricants de couteaux sont responsables des gens qui égorgent d'autres gens?
Non, mais c'est un truc qui s'est vraiment posé. Oui, je crois que c'est en Grande-Bretagne.
Ouais, c'est arrivé en France aussi, avec notamment sur des chantages. C'est une des dernières arnaques à la mode, hein, c'est le chantage à la webcam.
Alors, c'est quoi ce chantage à la webcam? Parce que moi, j'ai beaucoup chanté, j'ai une webcam.
Le principe consiste à amener quelqu'un à se dénuder et à faire quelques acrobaties à caractère sexuel devant une webcam, d'enregistrer ça et ensuite de faire un chantage pour essayer de lui soutirer de l'argent. Et donc, il y a un adolescent français comme ça qui s'est suicidé à l'issue de cette affaire. Ouais, ce que je trouve important dans ce truc-là, c'est qu'on a effectivement un mode de surveillance et de censure. Il faut savoir que sur Facebook, il y a des mots-clés, il y a possibilité de dénoncer en disant ce message, ça va pas. Et derrière, il y a des armées de gens payés au lance-pierre au Maroc notamment pour le Facebook francophone qui vont vérifier si ça rentre dans les clous ou pas. Et les critères de sélection, ils sont complètement stupides, hein. Il faut pas avoir de tétons, pas avoir de sexe, mais si effectivement on a une planche anatomique, hein, le problème m'est arrivé personnellement avec un dessin, une illustration avec une planche anatomique, rien de ni d'érotique ni de pornographique, le truc a été dégagé. Or, on suffit d'allumer les clips à la télé et on peut voir des trucs avec ni tétons ni poils et qui sont, chargés de façon super lourde. Il y a des tas de manières de faire et aujourd'hui, le harcèlement il se fait très bien sur les réseaux sociaux qui sont surveillés et tout ce filtrage il se fait sur des critères complètement cons parce que c'est hyper compliqué de faire du qualitatif et c'est.
Puis c'est très lié à une culture aussi. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu des dangers qui est amené par Internet et qu'on sent beaucoup en ce moment, c'est qu'on arrive un peu à une monoculture et on essaye de lisser au maximum pour pas ça choque les sensibilités des uns et des autres. Et du coup, on va arriver à une société complètement plate, quoi, où il faut absolument que tout soit tiède. Et ce problème que tout soit mondial aussi, ça pose aussi la question.
Ce qu'il y a, c'est que surtout, ils appliquent des critères simples. Parce que bah, quand t'as quelqu'un qui est payé à pas cher dans un pays sous-développé pour aller faire du filtrage, bah, on peut pas imaginer qu'il soit hyper motivé. De toute façon, c'est du travail à la chaîne, donc on va lui demander d'évaluer quelques critères super simples. Or, on peut tout à fait faire des trucs super malsains sans montrer les éléments. Enfin, je veux dire, il y a moyen de complètement détourner. Et donc, comme les critères mis en œuvre sont simplistes, derrière, le filtrage, il est bidon.
Ceci dit, moi, j'aurais à vous proposer une idée contraire, hein, où là, on peut imaginer que c'est une forme de censure qui, moi, m'intéresse. C'est de censurer ou en tout cas de bloquer les spams. Comment tu fais pour ne pas avoir des spams qui te tombent dessus?
Les spams, ça, c'est surtout des réponses techniques, hein, qu'on apporte. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un billet sur mon blog à ce sujet en disant que XMPP était très adapté au courrier électronique, justement en partie parce que ça permet d'éviter le spam. Plus facilement, parce que déjà, c'est plus difficile que sur le courrier de faire ce qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire l'usurpation d'identité, se faire passer pour quelqu'un d'autre, ce qui est pas mal utilisé au niveau des spammers. Ensuite, on a une liste de contacts, donc on peut dire, si la personne je la connais pas déjà, c'est un peu plus louche. Et après, il y a aussi des extensions dans le protocole qui permettent de... Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est encore un autre débat, mais de noter plus ou moins les serveurs selon est-ce qu'ils ont beaucoup de spam. Enfin, voilà. Tout ça, ça permet d'avoir plus d'informations pour permettre de filtrer plus facilement le courrier. Après, de toute façon, les solutions techniques sont jamais parfaites, hein, donc ça, on va voir comment ça va évoluer avec le temps. Pour l'instant, ça reste un réseau qui est relativement épargné par ce fléau. Quoi.
Tu penses quand même rajouter un bouton signaler ce message, signaler ce profil, ou est-ce que c'est pas du tout dans la direction?
Ben, disons que ça a du sens pour un grand truc centralisé. Là, c'est beaucoup plus difficile à gérer vu que c'est beaucoup plus.
Est-ce qu'on a au moins l'option de dégager quelqu'un? Voilà, on a quelqu'un dont on trouve que les messages sont pénibles, on n'a pas envie de le voir.
On peut l'ignorer, tout à fait. Ouais. Ça, c'est très facile à faire et oui, suffit d'ignorer quoi.
Divergence numérique sur le 93.9 de Divergence FM, le 103.3, le 102.0 et le 104.1 de Radio Escapade, sur le 87.8 et 98.6 de Radio Larzac. Une émission consacrée à Salut à toi, une alternative libre aux outils de réseaux sociaux commerciaux. Luc Fievet et Emmanuel Charpentier de l'April avaient reçu Gophi.
Donc Gophi, oui. En termes de réseaux sociaux libres, il y en a un dont on a envie de parler un peu plus en détail, c'est Diaspora. Parce que celui-là avait fait beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de buzz. Son évolution n'est pas nécessairement un très bon exemple.
Oui, alors Diaspora, c'est effectivement un réseau dont on en a beaucoup parlé. Donc pour rappeler vite fait, c'est un réseau qui a été fait par 4 étudiants, je crois qu'ils étaient au MIT, je ne suis pas sûr, et qui a fait un projet sur Kickstarter. Donc
un outil de levée de fonds, on pourrait dire.
Voilà, tout à fait, de levée de fonds communautaire, et qui a eu aussi un article dans le New York Times, donc qui a fait énormément de bruit. Alors déjà, une première chose, c'est que moi, je suis un peu de la vieille école, c'est-à-dire que Salut à toi, ça existait déjà bien avant qu'on parle de Diaspora, et je suis dans la vieille école dans le sens que, pour moi, il faut attendre que le projet fasse déjà quelque chose avant de commencer à en parler, et c'est vrai que Diaspora, c'était un peu parti en mettant la charrue avant les bœufs, en faisant du bruit avant de faire la moindre ligne de code.
Ils avaient un super plan média, ouais.
On pourrait appeler ça du vaporware aussi.
Ouais, sauf qu'ils ont quand même réussi à produire quelque chose à l'arrivée. Ils ont quand même eu pas mal d'argent. Bon, ça c'est une chose, mais ils ont réussi à faire quand même quelque chose. Et c'est toujours bien qu'on parle d'un projet libre, ça on va pas non plus l'enlever. Maintenant, ce qui m'a un peu embêté, c'est que ça a complètement occulté tous les autres projets qu'il y avait en même temps. Parce que à l'époque de Diaspora, il y avait Japix qui commençait à faire pas mal de bruit. Il y avait déjà Movim, il y avait Gnu Social, je sais pas trop ce qu'ils ont donné. Il y avait One Social Web, enfin il y avait quand même pas mal de choses à côté. Et ça a complètement occulté. Et encore aujourd'hui, il y a des tas de fois où j'ai des articles où on ne parle que de Diaspora, alors qu'au final, il y a des tas d'autres réseaux et qui sont souvent même plus avancés. Il y a Friendica aussi. C'est un peu un côté dommage. Enfin, il y a un beau gâchis, de ce côté-là. Quoi.
On pourrait dire qu'ils avaient un super plan de com. Ils étaient au taquet là-dessus.
C'est un peu la maladie de notre société, c'est que voilà, maintenant tout est. Il y a besoin absolument de communication. Il faut faire du marketing. Il faut parler des choses. Moi d'ailleurs, c'est un truc qui m'handicape beaucoup parce que c'est un truc qui me gonfle. Hein, soyons honnêtes. Parlons franc.
Donc tu te fais violence. Ça.
J'ai traîné les pieds. J'ai fini par faire un site de présentation. Je refuse d'utiliser Facebook et Twitter pour parler du projet. J'utilise Identica. Quand même, qui est libre.
Mais qui ne l'est pas pour encore longtemps parce que Identica va fermer, pour information.
J'étais pas au courant.
Diaspora, je reviens dessus, mais finalement ça a donné un projet, mais pourquoi on en parle en mal? J'ai l'impression que ça y a eu un gâchis, quelque chose qui a raté, non?
Ça a beaucoup déçu.
Je critique un peu la façon dont ça s'est passé, mais ça reste un projet libre, ça reste un projet qui a donné quelque chose. Il y a quand même, je pense, une des bonnes choses à la base, et enfin voilà, on va pas non plus taper sur les autres projets libres parce que ça reste utile.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, les quatre étudiants qui étaient au début dessus?
Alors malheureusement, il y en a un qui s'est suicidé.
À cause de Diaspora?
J'en ai aucune idée, je connais pas sa vie privée, j'ai pas m'avancer là-dessus. Donc les trois autres, ils ont continué, ils ont commencé à faire, je sais plus, un projet très lié à Facebook d'ailleurs. Enfin bon, après, j'ai pas dans les détails, je les connais pas suffisamment, donc on va éviter. Par contre, comme ils sont partis sur autre chose, ils ont fourni le projet à la communauté. Alors il y en a beaucoup qui ont vu ça comme un arrêt de mort du projet. Moi, je prends un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus confiance dans le projet maintenant qu'il est communautaire. Bah, c'est la même chose un peu pour Qt, qui a été abandonné par Nokia, qui est devenu communautaire et qui a donné aussi des choses derrière. Et voilà, de manière générale, j'ai beaucoup plus confiance quand la communauté est vraiment investie dans quelque chose que quand c'est maîtrisé par des entreprises commerciales.
Et donc toi, aujourd'hui, tu es plutôt tout seul. Il te manque deux acolytes pour faire le trio. Faut pas parler
Ouais, alors je suis tout seul. Donc le projet, je l'ai commencé en 2008. Et depuis 2008, je suis tout seul. Donc oui, c'est extrêmement difficile parce que j'ai quand même un travail à côté. Donc je travaille dessus le soir et les week-ends. Et des fois, j'en ai un peu marre.
T'as envie de vivre à côté, c'est quand même incroyable.
Ouais, c'est j'ai une vie, désolé. Mais bon, je continue parce que j'y crois, parce que je crois que c'est important. Et donc, j'ai eu quelques contributions ponctuelles. J'ai 4 personnes, je crois, ou 5 personnes qui ont contribué, dont une grosse contribution pour toute l'apparence de l'interface web. Et donc, effectivement, voilà, la première chose que je cherche en ce moment, c'est des gens qui peuvent m'aider. Alors, principalement des développeurs, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des traductions à faire, il y a aussi du graphisme à faire, il y a des tas de choses à faire. Donc voilà, c'est ce que je cherche dans un premier temps. Et après, j'aimerais bien monter une association, et donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, une coopérative en autogestion, à terme dessus, s'il y a suffisamment de gens intéressés et impliqués.
Et du coup, cette coopérative, qu'est-ce qui ferait rentrer de l'argent dedans? Quelle serait l'activité? Quel serait le service offert par ce truc?
Alors là, il y a des tas de possibilités. On pourrait penser notamment que c'est un logiciel qui pourrait beaucoup intéresser les universités, les entreprises, parce que c'est sécurisé, parce qu'on en a la maîtrise. Donc on pourrait déjà envisager du service, faire des développements particuliers. Donc
pour faire de la communication d'entreprise, je sais que c'était très à la mode il y a quelques temps, je pense que ça doit être encore aujourd'hui, effectivement, qui est de s'inspirer de ce qui se fait dans les réseaux sociaux au grand public pour faire de la communication au sein d'une organisation.
Oui, il y a des outils comme Viadeo, LinkedIn et d'autres.
Alors, oui, mais ça c'est... Non, parce que ça, c'est des trucs des individus pour gérer leur carrière. Mais il y a effectivement l'introduction d'outils de type réseaux sociaux à l'intérieur d'une entreprise pour sortir du mail.
Exoportal, il y a des portails notamment où ils commencent à intégrer des notions de relations.
J'avais
les personnes.
Vu un grand patron qui disait en gros, chez nous c'est fini, on n'envoie plus de mails.
Ah oui, j'ai vu passer ça aussi, j'ai pas quitté ça. Donc voilà, ça peut être tout à fait utilisé pour ça. Après, bon, il y a pas mal de choses à réfléchir, mais c'est un peu le problème de tous les logiciels libres, enfin problème plus ou moins. Voilà, c'est beaucoup sur le service, beaucoup sur les développements, l'installation, le support technique, ce genre de choses, quoi. Mais je pense honnêtement, à vue de nez, qu'on peut faire assez facilement vivre 3 ou 4 personnes... correctement, quoi.
Donc, toi, tu as plus de 30 ans, tu n'es pas étudiant, tu travailles dans quel genre d'entreprise?
Je suis plus étudiant. Moi, donc, j'ai 32 ans, pour être précis, et je travaille dans une entreprise qui fait des ordinateurs simplifiés, hein, qui travaille sur une base de logiciels libres. Bon, malheureusement, tout n'est pas libre, le produit final n'est pas libre, mais...
Oui, c'est le cas de plein de gens, j'en fais partie. D'accord, donc ça va te permettre d'avoir les compétences justement pour amener ton projet auprès du grand public, c'est bien.
Et en termes de développement immédiat, avant que tu réussisses à monter cette coopérative, est-ce que toi tu penses que, salut à toi ou à un autre projet de ce type-là libre, ou même tous en même temps, pourrait avoir un rôle à jouer dans les communautés du logiciel libre, puisqu'aujourd'hui on a un certain nombre d'outils qui existent, on discute par IRC, on discute par liste de discussion depuis un bon moment. On a des plateformes comme par exemple LinuxFR, mais finalement, il y a par rapport à ces outils qui existent pour le grand public, dans le monde de l'informatique libre, on est finalement assez conservateur à utiliser des outils qui existent déjà depuis très longtemps.
Oui, mais qui ont fait leurs preuves et qui marchent très bien. Après, j'en vois aussi beaucoup qui parlent de réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs beaucoup d'odes à Google, bah, notamment sur des LFP. Je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir des outils vraiment libres et qui peuvent être des alternatives à ce genre de choses. Après, moi là, c'est pas exclusif avec ces outils qui marchent très bien. D'ailleurs, moi je m'organise avec une mailing list, une liste de diffusion en français pour saluer à toi, et c'est des outils qui sont performants. Après, par contre, ça aussi ses limitations. Par exemple, pour envoyer un mail, c'est extrêmement difficile, voire impossible d'envoyer un mail de plus de 15 mégas parce que les serveurs ne le supportent pas la plupart du temps. C'est le genre de choses qui peuvent être palliées en utilisant ce projet. Voilà, pour des trucs comme l'envoi de photos, ça simplifie quand même par rapport à monter un serveur FTP et donner un accès passer selon les contacts et tout ça. Le fait que ce soit regroupé, ça donne quand même pas mal de possibilités, voilà, ne serait-ce que la gestion des droits.
Donc du coup, est-ce que tu lances un appel vers les assos du libre, les libristes, en disant venez chez moi, essayez d'élargir vos...
Enfin, oui et non, après, choisissez le logiciel qui vous convient le mieux. Hein. Alors, j'ai pas tout à l'heure de Moovim qui commence à être vraiment, vraiment sympa, commence à avoir une belle tête. Non, ce que j'aimerais surtout, c'est que les gens arrêtent d'utiliser des outils qui sont, à mon sens, dangereux. Ben voilà, on les a déjà suffisamment cités jusqu'ici. On a des réponses pour les militants, on a des réponses pour les utilisateurs, on a des réponses pour les associations. Maintenant, ce sont des outils qui sont pas encore aussi finis, fignolés et enrobés de sucre que ceux qu'on peut voir du côté commercial. Mais voilà, c'est comme pour Linux, hein, il faut faire un effort, il faut essayer de s'impliquer un petit peu, et même si ça marche pas comme on veut au début, même si ça fait pas tout ce qu'on veut, même s'il y a pas assez de monde, essayer d'insister un petit peu, et bah, de venir discuter, de venir... voilà, faut aussi qu'on s'entraîne, qu'on se soutienne, et qu'on essaye de faire quelque chose qui fonctionne.
Très bien. Tu peux nous rappeler l'adresse de ton site ?
Alors, le site de présentation, c'est donc sat.gofi.org. Après, la démo, elle est sur www.libervia.org. Et mon blog, où il y a pas mal d'informations, c'est www.gofi.org.
Eh bien, Gofi, merci beaucoup.
Oui. Merci à vous.
Et bonne continuation. Terrorist
networks. Terrorist states. C'est ainsi que se referme cette 167e divergence numérique spéciale. Salut à toi, alors salut à vous, très bonne semaine et restez libres. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorist networks. Terrorist states.